Chapitre 26. Les couvertures, les voiles et les haies. Les matériaux de la première couverture. Nous avons ici la description des voiles et des couvertures du tabernacle, dans lesquelles on discerne les ombres des différents traits du caractère de Christ. Et tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin coton retors, et de bleu, et de pourpre, et d'écarlate. Tu les feras avec des chérubins d'ouvrage d'art. Tels sont les différents aspects sous lesquels apparaît l'homme Christ Jésus. 1 Timothée 2, verset 5. Le fin coton retors représente la parfaite pureté de sa marche et de son caractère, tandis que le bleu, la pourpre et l'écarlate nous le montrent comme le Seigneur des cieux, qui doit régner, selon les conseils divins, mais seulement après avoir souffert. Nous avons donc en lui un homme pur et sans tache, un homme céleste, un homme roi, un homme souffrant. Les différents matériaux mentionnés ici ne devaient pas servir seulement pour les tapis du tabernacle, c'est-à-dire les couvertures, mais étaient employés aussi pour le voile, verset 31, pour le rideau à l'entrée de la tente, verset 36, pour le rideau de la porte du parvis, chapitre 27, verset 16, pour les vêtements de service et les saints vêtements d'Aaron, chapitre 39, verset 1. En un mot, c'était Christ partout, Christ en tout, rien que Christ. Le fin coton retors. Le fin coton retors, figure de l'humanité pure et sans tache de Christ, ouvre devant nous une source précieuse et abondante de méditation. La vérité touchant l'humanité de Christ doit être reçue avec toute l'exactitude de l'enseignement des Écritures. C'est là une vérité fondamentale. Et si elle n'est pas acceptée, maintenue et défendue telle que Dieu l'a révélée dans sa parole, l'édifice tout entier qui doit reposer sur elle ne pourra être que corrompu. Si nous sommes dans l'erreur sur un point aussi capital, nous ne pouvons être dans la vérité à l'égard d'aucune autre chose. Le vague qui semble prédominer dans les pensées et les expressions de plusieurs sur une doctrine de cette importance est déplorable. Avec plus de respect pour la parole de Dieu, on la connaîtrait certainement mieux et on éviterait ces déclarations erronées et irréfléchies qui attristent le Saint-Esprit, dont l'office est de rendre témoignage de Jésus. Quand l'ange eut annoncé à Marie la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, celle-ci lui dit « Comment cela arrivera-t-il ? Puisque je ne connais pas d'homme. » Luc 1, verset 34. Sa faible intelligence était incapable de saisir, et encore moins d'approfondir, le prodigieux mystère de Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Mais écoutez avec attention quelle fut la réponse de l'ange, non à un esprit sceptique, mais à un cœur pieux, quoique ignorant. « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Marie s'imaginait sans doute que cette naissance devait avoir lieu selon les principes ordinaires de la nature, mais l'ange corrige son erreur et, en la corrigeant, énonce une des plus grandes vérités de la révélation. Il lui déclare que la puissance divine allait former un véritable homme, le second homme venu du ciel. 1 Corinthiens 15, verset 47. Un homme dont la nature était divinement pure et entièrement incapable de recevoir ou de communiquer aucune souillure. Cet être saint fut formé en ressemblance de chair de péché, sans péché dans la chair. Romains 8, verset 3. Il participa à une chair et à un sang réel et véritable, sans mélange de la moindre parcelle du mal qui souillait la création au milieu de laquelle il venait. C'est là, nous l'avons déjà dit, une vérité de premier ordre, que l'on ne peut retenir avec trop de fidélité et de fermeté. L'incarnation du Fils, seconde personne de la Trinité éternelle, son entrée mystérieuse dans une chair pure et sans souillure, formée par la puissance du Très-Haut dans le sein de la Vierge, est le fondement du grand mystère de la piété. 1 Timothée 3, verset 16. La pureté essentielle de son humanité répondait parfaitement aux exigences de Dieu, et la réalité de cette humanité répondait aux besoins de l'homme. Il était homme, car nul autre qu'un homme n'aurait pu répondre à tout ce que rendait nécessaire la ruine de l'homme. mais il était un homme qui pouvait satisfaire à toutes les exigences de la gloire de Dieu. Il était véritablement homme, mais pur et sans tache. Dieu pouvait trouver son plaisir en lui parfaitement, et l'homme pouvait s'appuyer sur lui sans réserve. Il est à peine nécessaire de rappeler que tout ceci, séparé de la mort et de la résurrection, est sans fruit pour nous. Nous avions besoin non seulement d'un Christ incarné, mais d'un Christ crucifié et ressuscité. Il fallait qu'il soit fait chair pour être crucifié, mais ce sont sa mort et sa résurrection qui rendent son incarnation efficace pour nous. Croire que, dans l'incarnation, Christ se soit uni à l'humanité pécheresse est une grave erreur. Lui-même nous enseigne expressément à cet égard. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Il ne pouvait y avoir aucune union entre une chair de péché et cet être saint, né de Marie, entre une chair corruptible et celui en qui Satan n'avait rien. Sur lui, la mort n'avait aucun pouvoir, de sorte qu'il a pu donner sa vie. Voir Jean 14, verset 30 et Jean 10, verset 18. La mort qu'il a volontairement soufferte est la seule base d'unité entre Christ et ceux qui sont devenus les membres de son corps. Nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé. Romains 6, versets 5 et 6. En qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main dans le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ, étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Colossiens 2, versets 11 et 12. Nous trouvons en Romains 6 et en Colossiens 2 une exposition détaillée de l'importante vérité qui nous occupe. Ce n'était que comme mort et ressuscité que Christ et les siens pouvaient devenir un. Voir aussi Éphésiens 1, verset 20 à 2, verset 8. Il fallait que le véritable grain de blé tombât en terre et mourût avant qu'un plein épi pût être formé et être recueilli dans le grenier céleste. L'incarnation formait, pour ainsi dire, le premier fondement du glorieux édifice. Et les couvertures de fin coton retors nous présentent, en figure, la pureté morale de l'homme Christ Jésus. Nous avons déjà vu de quelle manière il fut conçu et il naquit. Luc 1, verset 26 à 38. Et si nous le suivons tout au long de sa vie ici-bas, nous voyons toujours et partout en lui cette même irréprochable pureté. Il passa 40 jours dans le désert, tenté par le diable, mais il n'y avait dans sa pure nature rien qui réponde aux suggestions du tentateur. Christ pouvait toucher le cercueil d'un mort sans être souillé. Il pouvait passer sans péché au milieu de la corruption. Il était parfaitement homme, mais unique dans son origine aussi bien que dans le caractère de son humanité. Lui seul a pu dire « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Psaume 16, verset 10. Ceci avait rapport à son humanité qui, en tant que parfaitement sainte et parfaitement pure, pouvait porter le péché. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. C'est lorsqu'il était sur la croix que Christ porta nos péchés, et là seulement. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Le bleu, la pourpre et l'écarlate. Le bleu est la couleur du ciel et indique le caractère céleste de Christ. Bien qu'il ait été réellement homme et qu'il soit entré dans toutes les circonstances d'une humanité vraie et réelle à part le péché, il était néanmoins le Seigneur venu du ciel. 1 Corinthiens 15, verset 47. Il marcha dans la conscience ininterrompue de sa haute dignité comme étranger céleste. Jamais il n'oublia un instant d'où il était venu, où il était et où il allait. La source de toute sa joie était en haut. La terre ne pouvait le rendre ni plus riche ni plus pauvre. Il fit l'expérience que ce monde était une terre aride et altérée, sans eau. Psaume 63, verset 1. Et par conséquent, son âme ne pouvait s'abreuver qu'en haut, se nourrir que de ce qui était céleste. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, verset 13. La pourpre est le signe de la royauté et nous fait voir celui qui était né roi des Juifs, qui se présenta comme tel à la nation juive et fut rejeté. Voir Jean 19, verset 2. Il fit une belle confession devant Ponce Pilate, confessant qu'il était roi alors qu'il n'y avait en lui aucune trace visible de royauté. « Tu le dis que moi je suis roi. » Jean 18, verset 37. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Marc 14, verset 62, voir Daniel 7, verset 13. Enfin, l'inscription sur la croix, en hébreu, en grec et en latin, les langues de la religion, des gens instruits et du gouvernement, portait qu'il était Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Jean 19, versets 20 et 21. La terre désavoua ses droits, malheureusement pour elle. Mais il n'en fut pas de même du ciel. Là, ses droits furent pleinement reconnus. Il y fut accueilli comme un vainqueur. Il y fut couronné de gloire et d'honneur. Il s'y assit au milieu des acclamations des armées célestes, sur le trône de la majesté dans les cieux, en attendant que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession, les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier tu les mettras en pièces. Et maintenant, ô roi, soyez intelligent, vous, juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux, tous ceux qui se confient en lui. » Psaume 2. L'écarlate a trait à un Christ versant son sang. Christ a souffert pour nous dans la chair. 1 Pierre 4, verset 1. Sans sa mort, tout aurait été inutile. Nous pouvons admirer le bleu et la pourpre, mais sans l'écarlate, le caractère le plus important du tabernacle aurait fait défaut. C'est par la mort que Christ détruisit celui qui avait le pouvoir de la mort. En plaçant devant nous une image de Christ, la vraie habitation de Dieu, le Saint-Esprit n'aurait pu omettre ce côté de son caractère. Il constitue le fondement de son union avec son corps, qui est l'Église, de son droit au trône de David et de sa seigneurie sur toute la création. Dans ses tissus, le Saint-Esprit nous présente donc le Seigneur Jésus comme homme pur et sans tache, d'origine céleste, comme homme roi et comme homme mourant, comme quelqu'un qui, par sa mort, a acquis un droit à tout ce que, comme homme, les conseils divins lui avaient destiné. Mais les couvertures du tabernacle ne sont pas seulement l'expression des différentes perfections du caractère de Christ, elles mettent encore en évidence l'unité et la fermeté de ce caractère dont chaque trait est parfait et à sa place. L'un n'empiète jamais sur l'autre, ni ne porte atteinte à sa beauté. Tout était harmonie parfaite devant le regard de Dieu, et fut présenté ainsi dans le modèle qui avait été montré à Moïse sur la montagne. Exode 25, verset 40, Hébreux 8, verset 5, Actes 7, verset 44. Une même mesure pour tous les tapis. 5 tapis seront joints l'un à l'autre, et 5 tapis seront joints l'un à l'autre. Versets 2 et 3. Tout cela parle des justes proportions et de l'accord qui régnait dans toutes les voies de Christ, dans quelque situation ou dans quelque relation que nous le considérions. Quand il agit dans l'un de ses caractères, nous ne voyons jamais que ce qu'il fait soit en désaccord avec un autre de ses caractères. Il fut en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, l'homme parfait. Rien en lui ne sortait de ces belles et parfaites proportions qui lui étaient propres dans toutes ses voies. Une même mesure pour tous les tapis. La couverture de poils de chèvre. Par-dessus la couverture dont nous venons de nous occuper, il y en avait une autre, de poils de chèvre. Versets 7 à 13. Elle cachait la beauté de la première à ceux de dehors, par ce qui représentait la séparation rigoureuse d'avec le mal environnant. Ceux qui étaient dans l'intérieur ne voyaient pas cette deuxième couverture. Ceux qui avaient le privilège d'entrer dans le lieu saint ne voyaient que le bleu, la pourpre, l'écarlate et le fin coton retors, image des vertus et des perfections variées de Christ. Dieu habitait au-dedans du voile, et au travers de ce voile, image de la chair du Christ, les rayons de la nature divine brillaient si délicatement que le pécheur pouvait les contempler sans être accablé. Pendant que le Seigneur Jésus a traversé ce monde, combien peu l'ont réellement connu, combien peu ont eu les yeux ouverts pour apprécier le mystère profond de son caractère, combien peu virent le bleu, la pourpre, l'écarlate et le fin coton retors. C'était seulement lorsque la foi amenait un homme en sa présence que Jésus laissait voir le rayonnement de sa gloire. Autrement, elle était voilée. Pour l'œil naturel, il pouvait sembler y avoir dans sa personne la réserve et la sévérité qui étaient représentées par les tapis de poils de chèvre. Elles étaient le résultat de sa séparation profonde et de son éloignement, non des pécheurs personnellement, mais des pensées et des principes des hommes. Il n'avait rien en commun avec l'homme naturel, et celui-ci n'avait pas la capacité de le comprendre ou de jouir de lui. « Nul, dit-il, ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. » Jean 6, verset 44. Et quand un de ceux qui étaient attirés confessait son nom, il lui déclarait « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. Il était comme une racine sortant d'une terre aride, n'ayant ni forme ni éclat, pour attirer le regard de l'homme. La popularité ne pouvait être la part de celui qui, pendant qu'il traversait rapidement la scène de ce monde, s'enveloppait d'une couverture de poils de chèvre. La multitude a pu le suivre un moment, parce qu'elle avait mangé les pains et les poissons multipliés. Mais la foule était tout aussi prête à crier « Hôte, hôte, crucifie-le » Jean 19, verset 15, que « Hosanna au fils de David » Matthieu 21, verset 9. Que les chrétiens, que les serviteurs de Christ, que tous les prédicateurs de l'Évangile s'en souviennent. N'oublions jamais la couverture de poils de chèvre. Les peaux de bélier teintes en rouge. Mais si les peaux de chèvre exprimaient la rigoureuse séparation de Christ d'avec le monde, les peaux de bélier teintes en rouge, verset 14, représentent son entière consécration et son dévouement à Dieu, dans lequel il persévéra jusqu'à la mort même. Il n'eut qu'un but, qu'il poursuivit sans dévier, de la crèche à la croix. Et ce but, c'était de glorifier le Père et d'achever l'œuvre qu'il lui avait donnée à faire. « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ? » dit-il dans son enfance, Luc 2, verset 49. Et plus tard, « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, verset 34. Les peaux de bélier teintes en rouge représentent un côté de son caractère, aussi bien que la couverture de poils de chèvre. Les peaux de tesson. Les peaux de tesson, verset 14, me paraissent désigner la sainte vigilance du Seigneur Jésus à l'égard de tout ce qui était hostile au but qui remplissait son âme. Il prit sa position pour Dieu et la maintint avec une ténacité qu'aucune influence des hommes ou des démons ne pouvait surmonter. La couverture de peaux de tesson était par-dessus, nous montrant que le trait le plus prononcé, dans le caractère de l'homme Christ Jésus, était une détermination invincible d'être un témoin pour Dieu sur la terre. Il préféra livrer sa vie plutôt que de renoncer à la vérité de Dieu ou d'abandonner ce pourquoi il avait pris sa place dans le monde. L'œil humain ne pouvait rien voir de la grâce, de la beauté et de la dignité morale qui étaient cachées sous la forme extérieure de Jésus de Nazareth, humble et méprisé. Quand les trésors de la sagesse divine découlaient de ses lèvres, on se demandait « Celui-ci n'est-il pas le charpentier ?» Marc 6, verset 3. Comment celui-ci connaît-il les lettres vu qu'il ne les a point apprises ? Jean 7, verset 15. Quand il déclarait qu'il était le Fils de Dieu et affirmait sa divinité éternelle, on lui répondait « Tu n'as pas encore 50 ans ». Ou bien il prenait des pierres pour les jeter contre lui. Jean 8, versets 57 et 59. En un mot, la confession des pharisiens « Pour celui-ci, nous ne savons d'où il est », Jean 9, verset 29, était vrai des hommes en général. Les limites de notre travail ne nous permettent pas de suivre ici le développement de ces traits précieux du caractère de Jésus dans les récits des évangiles. Ce qui a été dit est suffisant pour ouvrir au lecteur une source de méditation et pour lui donner une idée des trésors qui sont renfermés dans l'image des voiles et des couvertures du tabernacle. Le mystère de la personne de Christ, ses motifs secrets d'action, son apparence extérieure dépourvue de ce que les hommes recherchent, ce qu'il était envers Dieu et envers les hommes, ce qu'il était au jugement de la foi et ce qu'il était au jugement de l'homme naturel, tout cela est figuré par les tapis de fin coton retors, de bleu, de pourpre et d'écarlate, et par les différentes couvertures de peau. Les ais. Les ais pour le tabernacle, verset 15, étaient faits du même bois que l'arche du témoignage. Ils étaient soutenus par des soubassements d'argent provenant de la rançon. Les crochets et les chapiteaux des piliers étaient également en argent. Comparez les versets 11 à 16 du chapitre 30 avec les versets 25 à 28 du chapitre 38. La charpente tout entière du pavillon du tabernacle reposait sur ce qui parlait de rédemption. Les crochets et les chapiteaux des piliers évoquaient la même pensée. « J'ai trouvé une propitiation. » Job 33, verset 24. « Béni soit Dieu, nous avons été rachetés non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » 1 Pierre 1, verset 18. Christ, la porte. Le tabernacle était divisé en trois parties distinctes. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Les voiles ou rideaux qui fermaient l'entrée de chacune des parties étaient faits des mêmes matériaux que la tente elle-même, savoir de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors. Chapitre 26, versets 31 et 36 et 27, verset 16. Christ est la seule porte par laquelle on puisse entrer dans les différentes régions de la gloire. Celles-ci ont encore à être manifestées, soit sur la terre, soit dans le ciel ou dans les cieux des cieux. Toute famille dans les cieux et sur la terre, Éphésiens 3, verset 15, sera placée sous l'autorité suprême de Christ, comme aussi elle sera introduite dans la félicité et la gloire éternelle en vertu de l'expiation que Christ a accomplie. Telle est la vérité, et quand nous la connaissons, les images qui la représentent sont faciles à saisir. Si nos cœurs sont remplis de Christ, nous ne risquons pas de nous égarer bien loin dans nos interprétations du tabernacle et de ses accessoires. Ce qui nous est utile dans cette étude, c'est un cœur plein d'amour pour Jésus et une conscience en paix par le sang de la croix.